Hello, friend.
Il t'a déjà baisé ici sur le canapé?
Non, pas encore.
Jan, director inside sales. They call me Jan the man.
Oh.
When you say people, you mean companies, right?
Actually, no, sorry. Jan the man. By people, I do mean people, humans, consumers.
Cocksucker!
Yeah, glad to tell you that fucking word.
I'll tell you what I think. Wanna know what I think, Fox?
I'm hanging on it.
Are you? I think you're upset about the shushing. I think you were pissed off about the Hitler mustache on your father-in-law. I think you shook up that can of soda on purpose. And I think you're clomping now, and you've made up some bullshit excuse about your feet, and it's all under the guise of Parkinson's. That's what I think.
Rouge, c'est non. Double rouge, c'est double non.
The situation's a lot more nuanced than that.
You think I'm really boring, don't you? Well, get used to it, because now that your father is dead, you can forget about ever going to law school. It's just you and dead people and freaks like me for the rest of your life.
You know, everyone says it's not supposed to make sense, like that's the whole point, dude. And I'm just saying, you know, that's like an excuse for lazy storytelling. Just don't sell me shite and tell me it's gold. All right, I might be stoned, but I'm not high. You know what I mean?
We are God. We're thoughts. We are as
are you an idiot?
No, sir, I'm a dreamer.
Bien le bonsoir, bienvenue à l'écoute de Série Folie, épisode 19 de la saison 4 proposée ce soir avec Aurore. Bonsoir Aurore.
Bonsoir.
Série Folie, cette émission qui vous parle série télévisée d'une manière tout à fait originale puisque on décortique un peu tout ça grâce à notamment les petits partages d'impressions sur les nouveautés des séries visionnées par Aurore ces derniers jours, dernières semaines. On va commencer comme chaque semaine avec trois petits exemples.
Oui, exactement. On va parler de trois nouveautés et on va commencer par une petite comédie canadienne qui s'appelle Working Moms, qui nous parle donc de mamans qui viennent tout juste d'accoucher ou en tout cas qui ont des bébés très très jeunes et qui sont sur le point de reprendre leur travail. Et donc on suit comme ça principalement trois femmes dans leur retour très chaotique dans le monde du travail, plus ou moins réussi et plus ou moins crève-cœur aussi, parce que ça signifie évidemment devoir abandonner leur petite progéniture et ça se fait pas toujours sans problème. Alors c'est plutôt sympathique, ma foi, c'est frais, c'est très moderne dans la proposition, et donc c'est plutôt une bonne petite comédie à découvrir, donc Working Moms.
Ah ben voilà, c'est court, concis.
Pour une fois, ça te surprend.
Ah oui, je pensais que t'allais en faire des tonnes, comme d'habitude. Deuxième série à revoir au niveau nouveauté cette semaine.
Au niveau nouveauté, on va continuer avec une comédie encore une fois, une comédie cette fois-ci américaine sur NBC, ça s'appelle Powerless. Et ça nous parle de quoi? Alors là, c'est un univers un petit peu moins réaliste, hein, puisque nous sommes dans un univers dans lequel les super-héros sont monnaie courante. Et c'est une sorte de workplace comedy, un peu comme The Office ou Superstore, où on peut penser à plein de comédies comme ça qui se passent dans le monde du travail, sauf que là, c'est dans un monde un peu particulier, où c'est l'entreprise Wayne, qui doit trouver des solutions pour un monde... plein de super-héros dans lesquels, mais forcément, on a plein de problèmes que l'on n'imaginerait pas généralement, du genre devoir se protéger des débris d'un immeuble qui tombe sur toi parce que un super-héros a voulu défoncer un de ses ennemis ou que sais-je encore, comment se protéger si on fait tomber le train dans lequel tu te trouves en tant que passager. Enfin bref, ils essaient de trouver des solutions pour les gens ordinaires dans un monde dans lequel Finalement, il y a sans arrêt des super-héros et des super-vilains qui sont en train de se castagner au-dessus de leur tête, quoi.
Ok, voilà. C'est original.
C'est original, c'est vrai. Alors, on va suivre ici une nouvelle employée, ce qui permet évidemment toujours de nous présenter un petit peu le monde dans lequel on va évoluer. C'est pas follement... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus, peut-être parce qu'ils en attendaient un petit peu trop, et c'est vrai que ça ne révolutionne rien, mais je trouve ça vraiment sympathique. Moi, j'ai notamment beaucoup pensé à la série Better Off Dead en regardant ces quelques épisodes, puisqu'elle vient de commencer, j'ai vu 3 épisodes jusqu'à présent. Tu vois, on a affaire à des gens un petit peu barrés et des expériences un petit peu barrées dans un milieu du travail qui est censé être un milieu très guindé, très sérieux. Et donc, ce mélange fonctionne assez bien, je trouve. Évidemment, on n'a pas les petits spots publicitaires encore comme pouvait nous le faire Better Off Dead, mais on ne sait jamais, ça pourrait venir. Hein. Donc moi, je suis plutôt partante pour ce truc. J'aime l'humour un peu pince sans rire qui s'en dégage, et j'ai l'impression que ça pourrait mener à une série vraiment agréable à suivre régulièrement. Donc voilà, je la conseille plutôt personnellement, même si j'admets que beaucoup d'autres personnes ont pu être déçues. Donc chacun pourra se faire son avis de Powerless. Donc
Powerless, deuxième série revue par toi. Une nouvelle fois, un avis positif. Hein.
Exactement, oui.
Est-ce que ce sera le cas pour la troisième série?
Mais oui, aussi.
Ouais, voilà, de belles découvertes,
quoi,
finalement.
C'est une bonne journée. Donc, cette fois-ci, il s'agit d'une série plus longue. Hein. C'est un drama qui est diffusé par la chaîne FX. Donc, on est toujours aux États-Unis. Et ça s'appelle Legion.
Legion.
Oui.
Oui. Je vois ce que tu veux dire, bah, bien sûr. C'est ce que tu voulais absolument découvrir ces derniers temps.
Exactement, oui. Pourquoi ? Parce qu'on a à la création de cette série un monsieur dont le seul nom suffit à me faire frétiller d'envie.
Ah, ok, t'es comme ça, toi.
Oui, oui, je veux dire.
Rien que le nom.
Rien que son nom, ça me donne déjà des petits frissons. Il s'appelle Noah Hawley. Et pourquoi ça me fait frissonner ? Parce que c'est le créateur de Fargo.
Et oui.
Et voilà, et du coup, on se dit, ah, on a affaire à quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui sait mener une histoire de manière intelligente et originale. Donc, tout de suite, c'est plutôt alléchant, quoi. Ici, nous sommes étonnamment dans un univers Marvel. Sauf que je dois t'avouer que jusqu'à présent, c'est pas du tout flagrant. Hein.
C'est ça, tu le ressens pas trop ?
On le ressent pas vraiment. Nous sommes plutôt du côté de l'univers des X-Men, d'après ce que j'ai cru comprendre, parce que je t'avouerai que je suis pas super forte en X-Men. chacun ses lacunes.
En moins quelque chose où tu n'es pas experte, c'est déjà ça.
Oui, oui, ce n'est malheureusement pas la seule chose. Mais donc, les X-Men, c'est vrai que jusqu'à présent, ça m'était plutôt passé par-dessus la tête. Mais qui sait, peut-être que si la série continue à me convaincre et emmener dans cet univers-là, j'aurais envie de découvrir toute la suite également. Là, en l'occurrence, nous suivons un héros qui est manifestement en institut psychiatrique parce qu'il a de très gros problèmes à discerner le vrai du faux. Il entend des voix, il a des visions, etc. Donc, on le suit en ayant parfois des flashbacks de son passé, parfois en ne sachant pas très bien où est la réalité, où est simplement l'hallucination. Enfin, c'est très très mélangé comme ça. Mais c'est une proposition esthétique très originale. Ça, je crois que on peut pas le nier. Cette manière de présenter les choses, je ne l'avais pas vue ailleurs jusqu'ici.
Non. Alors, tu veux dire ma petite critique?
Oui, oui.
Bah, j'ai bien aimé le premier épisode, hein, oui. Clairement. Mise en place un peu d'un univers hein, tout à fait original. Le deuxième épisode, je l'ai, je crois, attrapé en vol.
Mm-hmm.
Et habituellement, bon, quand je fais cet exercice-là, ça se passe pas trop mal. Là, c'est tellement confus, c'est très compliqué de savoir si on est dans la réalité, dans ses pensées, dans son rêve, enfin tout ça. Et on rajoute plein d'éléments. Donc c'est un peu, malgré tout, difficile à suivre comme série.
C'est une série exigeante, c'est vrai, notamment parce que justement la narration n'est pas simple et linéaire comme elle peut l'être habituellement. Et en plus, ce qui peut porter à confusion également, c'est que finalement on va se rendre compte que le monde réel est plein d'éléments qu'on pourrait penser irréels. Puisque on est dans un univers de super-héros, donc forcément il y a des choses qui vont se passer qui devraient normalement pas se passer. Ce qui en effet peut être embêtant si tu prends l'épisode en cours de route et.
J'ai l'impression que même si tu suis vraiment, c'est quand même compliqué par moment d'identifier la réalité du rêve, du. Enfin voilà. Et donc j'ai l'impression qu'on utilise quand même cette nouvelle formule à outrance et que ça la dessert un peu.
Voilà. Oui, je te rejoindrai sur le fait que j'ai l'impression qu'on a un petit peu tiré sur la corde de la confusion entre réalité et ce qui se passe dans l'esprit du héros déjà avec Mr. Robot. Et donc ici, on retire encore sur la même corde. Ça, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu dommage, mais en même temps, c'est un univers qui est déjà existant et donc fallait probablement prendre l'histoire telle qu'elle est également.
Voilà, on verra vers quoi ça évolue.
Il pouvait pas inventer ce qu'il voulait non plus, hein, le gars.
Si ça fait partie d'une mise en place d'un univers et qu'une fois qu'on a compris le principe, ça se calme un peu, pourquoi pas.
Mm-hmm.
Mais si ça se calme pas, alors oui, il faut vraiment être motivé parce que il faut s'accrocher.
Je serais plutôt d'accord avec toi, c'est vrai, mais j'ai l'impression que déjà entre le premier et le deuxième épisode, on a quand même pas mal avancé, même s'il y a toujours, c'est vrai ça, mais on n'est plus du tout au même point qu'au départ, et donc il y a plutôt l'espoir pour que ça continue à évoluer, quoi. On fait pas du tout du surplace dans cette série, et on continue à avoir des épisodes d'hallucinations, mais la réalité commence à apparaître de plus en plus clairement,
oui.
Quand même. Hein. Donc non, je crois que globalement, c'est plutôt positif. Évidemment, au niveau de la mise en scène, évidemment, au niveau de la manière de raconter l'histoire, les acteurs aussi sont assez... y a rien à redire, quoi. Voilà. La musique qui est utilisée, c'est plutôt gai et ça donne plutôt envie de continuer à suivre. Surtout parce qu'on a confiance, hein. Il faut avouer aussi que le fait qu'on sache pas trop où on met les pieds fait que, savoir qu'on a affaire à une série, avec un créateur en quel on peut avoir confiance, ça permet malgré tout de s'y plonger sans trop de crainte, quoi.
Voilà, donc aucune déception de ce côté-là, et puis tu t'alignes aussi finalement sur les critiques en général qui ont plutôt apprécié aussi.
Oui, écoute, je crois que sur ce point-là, on est plutôt dans la quality TV, comme on dit, donc les critiques généralement abondent,
ouais.
Dans ce sens-là. Hein.
Mais c'est parce que j'ai l'impression que c'était peut-être pas nécessairement le cas pour Fargo, si ?
C'était peut-être moins connu, c'est vrai. Ça a fait moins de battage. Et là, comme il y a eu Fargo avant, Noah Hawley est connu maintenant. Et donc, ça permet
d'être plus accessible. Voilà.
Vrai.
Ok, que penserais-tu de faire une petite pause musicale?
Écoute, je n'en pense que du bien.
Alors, sur ta petite fiche,
les Rolling Stones. Les Rolling Stones qui nous chantent She's a Rainbow dans Legion, justement. Thank you.
In blue, see the sky in front of you, and her face is like a sail, speck of white, so fair and pale. Have you seen a lady of blue? She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow, coming colors in the air. Everywhere. Seen her all in gold, like a queen in days of old. She shoots colors all around, like the sunset going down. Have you seen the lady of Pharaoh? She comes in colors everywhere. She combs her hair.
De Sari Folie, cet épisode 19 de la saison 4 qui va vous parler psycho.
Oui.
Bah oui, pourquoi pas.
Oui, on va parler psycho, mais en profane. Hein. On n'est pas du tout spécialiste, on n'est pas du tout
mon niveau,
calé
quoi.
En psychologie en général et en particulier. Donc ici, il n'est pas question de donner un avis d'expert sur la question, mais plus de la psychologie au sens large. Voilà.
Alors.
Alors, bah, du coup, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire évidemment. Se rendre compte que la psychologie est très importante dans les séries, ne serait-ce que pour donner un minimum de profondeur et de consistance aux personnages qu'elles nous proposent. Hein. Ça paraît assez évident, mais pourtant, ça arrive quand même assez souvent d'avoir des personnages qui nous semblent totalement déconnecté, sans profondeur, justement parce que on n'a pas suffisamment creusé leur psychologie, ou bien qu'elle paraît absurde, incohérente, et qu'on n'arrive pas à lui donner le moindre sens, quoi. Donc c'est quand même très 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 important, et très vite, si on a affaire à des personnages qui sont trop incohérents, ça risque de nous faire décrocher complètement.
Casser la magie, de fait.
Voilà. Alors, ce qui explique probablement ce besoin de donner une psychologie au personnage, le fait que l'on ait autant de personnages principaux qui sont torturés par des traumas les plus divers, hein, même si on revient quand même souvent au même, on en reparlera un peu plus loin, mais... c'est quand même aussi un procédé qui est finalement très récurrent, de se dire « Allez, il faut donner un peu de profondeur à mon personnage, donc je vais en faire un blessé de la vie. » quoi. C'est pas du tout nouveau, encore une fois. Ça permet aussi d'offrir des super vilains, ou bien des vilains tout court, hein, des méchants dans les séries qui sont plus intéressants. Ça contrebalance le simple point de vue moral qui serait « Oui, il est méchant parce qu'il fait des choses mal, quoi. Hein. On a quelque chose d'un petit peu plus profond, et quand c'est bien fait, ça nous donne même les meilleurs personnages d'une série sont parfois les méchants quand ils sont suffisamment creusés, parce que ça permet de fouiller les coins, les recoins les plus sombres de l'âme humaine, et c'est aussi intéressant que ces recoins les plus éclairés, finalement. Donc voilà. Évidemment, plus on aura des personnages creusés au niveau de la de la psychologie, et plus on va avoir des récits qui vont être menés par cette psychologie, et pas uniquement par une sorte d'intrigue qui va de fil en aiguille de manière un peu mécanique. Ça permet aussi de donner un peu plus de naturel au déroulement d'une intrigue, finalement, en disant ben oui, c'est parce qu'il est intéressé par ceci, ou c'est parce qu'il est torturé par cela qu'il va réagir comme ça.
Agir de telle façon ou d'une autre, oui, tout à fait.
Voilà, exactement. Et donc ça aussi, ça permet de donner justifier un peu plus d'épaisseur à ton récit. Évidemment, comme on a affaire à des séries ici, ça permet d'avoir une temporalité longue, et donc ça permet d'explorer la profondeur et l'évolution autant des personnages et de leur personnalité en général, mais aussi des différents troubles qui peuvent les habiter à certains moments, ou bien tout au long de leurs histoires, hein, ou évidemment toutes les relations également, comment les relations peuvent évoluer dans un sens ou dans un autre, quels sont les éléments qui peuvent les faire capoter ou pas. Enfin, c'est aussi intéressant de regarder les séries de ce point de vue-là. Ça permet d'en comprendre peut-être un peu plus sur comment fonctionne la nature humaine, peut-être.
Là, tu parles d'évolution. Maintenant, on peut aussi s'en servir dans le cadre des séries télé, aussi peut-être pour justifier certaines répétitions aussi dans les comportements.
Oui, bien sûr.
Puisque le personnage est comme ça, on peut revenir sur ces diverses maladies mentales à souhait, et quelque part réexploiter le filon plusieurs fois.
Oui, évidemment, il y a toujours la tentation de faire ça. Tout va dépendre du... Est-ce qu'on a de bons scénaristes à la barre ou pas, hein.
Parfois, la répétition peut faire plaisir aussi. On se sent comme chez soi. Si on a apprécié.
Oui, d'accord, mais la façon dont tu le présentais, ça avait l'air d'être plus une grosse ficelle sur laquelle on tirait à chaque fois qu'on en avait besoin, quoi. Du genre, la fille adolescente super énervante qui revient quand ça arrange bien dans l'histoire d'avoir ce genre de choses-là. Mais sinon, le reste du temps, elle n'existe absolument pas dans la série, quoi. Donc ça, parfois, il faut avouer que c'est utilisé de manière un petit peu un petit peu aléatoire et du coup énervant. Mais qu'on s'est bien fait, oui, c'est vrai. Et pouvoir remarquer que certains travers peuvent finalement être répétés comme ça, sans arrêt, sans qu'on arrive totalement à sortir de la boucle, ça peut être aussi intéressant à observer.
Surtout si ce sont peut-être des choses ou des comportements vers lesquels on s'identifie. Alors, c'est rassurant de les revoir et de se dire on n'est pas les seuls, comme ça.
Ben oui, exactement. Ça peut permettre de s'identifier, en effet, comme tu dis. Alors, je vais terminer en citant les genres privilégiés, parce qu'il me semble quand même qu'il y a des genres dans lesquels on va retrouver davantage de personnages avec une psychologie fouillée que d'autres. Même si, évidemment, bah, encore une fois, hein, on peut avoir un genre dans lequel la psychologie n'est pas prioritaire, mais parce qu'on a quelqu'un d'un petit peu plus original et plus recherché aux manettes, on va malgré tout pouvoir aller chercher dans ce niveau de ce côté-là, et puis parfois au contraire dans un genre qui exigerait de fouiller la psychologie des personnages, ben on n'a pas du tout ça et ça tombe à plat, hein, évidemment. Mais de manière générale, je dirais que le drama est quand même beaucoup plus favorable à la fouille de la psychologie des personnages, ne serait-ce que parce que souvent la comédie exige de grossir un peu le trait, et donc on a souvent plus des stéréotypes, des caricatures, des choses un petit peu plus grossières qui peuvent revenir, même si je dois dire que un certain nombre de comédies peuvent être intéressantes sur la dynamique de groupe. Observer la dynamique de groupe qui peut s'instaurer au sein d'une famille, au sein d'un groupe d'amis ou même au sein d'un milieu de travail, c'est aussi intéressant, je trouve, à ce niveau-là. Et certaines séries le font très bien. Je pense par exemple à la série The Office, qui peut avoir des personnages très très grandiloquents, mais oui, qui en même temps, au niveau de la dynamique qui peut s'installer entre les différents secteurs de l'entreprise et entre les différents personnages eux-mêmes, est plutôt intéressante malgré tout. Mm-hmm. Voilà. Alors, en dehors donc de ça, dans les drames, bah, évidemment, il y a certains drames réalistes qui vont particulièrement bien fouiller la psychologie des personnages. Encore une fois, citer Rectify, c'est un petit peu l'évidence qui revient, mais je crois que Rectify n'est que la pointe de l'iceberg, et beaucoup de séries qui se veulent réalistes essaient d'aller dans cette direction. Dernièrement, par exemple, une série comme Queen Sugar pouvait aussi se
targuer.
Oui, si tu veux.
Voilà.
Si tu veux, se targuer, pourquoi pas, de fouiller ces personnages et d'offrir des personnages avec une réelle densité psychologique. Et donc, voilà. J'ai l'impression que le genre qui permet le plus la recherche psychologique, mais là, c'est peut-être moins au niveau des personnages qu'au niveau de la symbolique qu'on va pouvoir y trouver, c'est le genre fantastique. Le genre fantastique qui fouille énormément justement toutes ces questions de démons enfouis en nous, etc. Tu vois, qu'il s'agisse de démons, de fantômes, de vampires, etc. On a quelque chose là de l'ordre de la recherche de comment fonctionne l'âme humaine qui peut être explorée de manière très ludique, évidemment, à travers des personnages de monstres auxquels on fait faire un petit peu tout ce qu'on veut, quoi. Donc ça aussi...
Tu penses à une série en particulier ?
Mais écoute, peut-être que je citerai Buffy, par exemple.
Juste par exemple.
Juste par exemple, mais c'est vrai qu'à force de le citer, ça commence par se voir, non ? ça finit par se voir même. Bon, bref. Je cite ça parce que je suis en plein dedans, encore une fois pour le moment.
Pour la huitième fois.
Pas la huitième. Non. Mais évidemment, ça n'est pas du tout la seule. Et la plupart des séries fantastiques, surtout si ce sont des bonnes séries fantastiques, sont très intéressantes à ce niveau-là. Les séries qui nous présentent des familles et les séries adolescentes vont aussi souvent être intéressantes au niveau de la psychologie parce que justement, un des buts, c'est de nous montrer un petit peu tous les changements, notamment psychologiques, qui peuvent s'opérer dans
cet âge magique.
Exactement, et donc ça permet d'observer en direct toutes les horreurs auxquelles on peut assister.
Les cons et les moins cons.
Donc c'est intéressant aussi, mais au niveau des familles aussi. Là, on a le générique de Friday Night Lights en arrière-plan, par exemple, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas, alors moi j'ai plutôt tendance à trouver ça très énervant, mais les conflits familiaux qui peuvent être représentés vont aussi nous permettre d'avoir une petite idée de comment fonctionnent les différents personnages au sein d'une cellule familiale. Donc voilà, c'est aussi intéressant à ce niveau-là. La dernière chose, ce sont les dramédies. Qui font un petit peu le lien entre le drame et la comédie, notamment les dramédies plus réalistes du genre Girls ou Louis, et puis évidemment il y en a beaucoup d'autres, mais aussi du côté plus dans un imaginaire tout à fait fantasque comme Man Seeking Woman par exemple, ce genre de choses là. Et puis je citerai Daria pour terminer, que je sais pas où le mettre, alors voilà, j'avais envie de le citer.
C'est bien, fais-toi plaisir.
Écoute, c'est un dessin animé, c'est une comédie, mais en même temps c'est sur les ados.
Le mix de tout ça.
Voilà, exactement.
Daria, à revoir bientôt pour la dixième fois.
Pour moi, en tout cas, regarder Daria, ça me fait découvrir beaucoup de choses sur ma propre psychologie. Donc, je trouve toujours ça intéressant.
Oui, tu lui ressembles beaucoup.
Je sais.
Pas physiquement, mais mentalement, non. Dieu sait si... Ah oui, c'est tout à fait toi. Bon,
on va passer à la musique, du coup, pour
si
essayer de s'en
bien.
Remettre.
Bah, oui.
Donc, on va s'écouter Sweet Surrender de Sarah McLachlan, entendu dans Cold Case.
Doesn't mean much. Step back to give faith, trade me. doesn't mean anything at all. The life I've left behind me is a cold room.
Série Folie. Alors, on va continuer de parler psychologie dans les séries télévisées avec Aurore.
Oui.
Oui.
Oui, je veux bien.
Bon, on t'écoute. On t'écoute.
Alors, on continue donc avec la question de savoir s'il y aurait par hasard certains troubles qui seraient plus sérigéniques que d'autres, donc qui passeraient beaucoup mieux et donc on les retrouverait beaucoup plus souvent, voire trop parfois.
Vraiment les problèmes psychologiques, hein. On ne va pas parler de psychologie qui va bien.
Oui, oui, ici on parle des troubles en effet, même si évidemment il y a une gradation énorme entre ceux qu'on va pouvoir citer. Hein. Donc oui, on peut constater qu'il y a quand même certains troubles qui sont surreprésentés par rapport à d'autres, d'autres probablement qui existent, mais dont on n'a même pas l'idée qu'ils existent, tellement jamais on en parle. Donc, à nouveau, hein, j'imagine qu'un expert en la matière serait beaucoup plus à même de nous dire lesquels. Toujours est-il que les troubles qui seront les plus représentés, ce sera quoi ? Évidemment, ceux qui vont nous permettre, de manière parfois un peu facile, mais pas toujours, hein, parfois c'est bien fait, de donner une profondeur à un personnage qui reste quand même ordinaire et auquel on peut quand même s'identifier. Ce sont les problèmes du genre la dépression, l'alcoolisme, les envies de suicide parfois, mais un peu mais pas trop. Tu vois, du genre Lethal Weapon par exemple, qui a commencé cette année-ci.
Et en même temps, l'envie de suicide, si tu vas un peu trop vite ou trop loin dans ton récit, il s'arrête. Hein,
oui, c'est ça. Donc il ne faut pas que ce soit trop non plus. Mais il faut quand même qu'on y croit. Il faut juste bien doser. Mais il faut avouer que cette nouvelle série arrive quand même assez bien à gérer l'affaire jusqu'ici. Donc c'est plutôt bien joué. Bon, l'alcoolisme, c'est à mon avis, c'est le truc qui a été le plus usé.
Ouais.
Hein, le vieil enquêteur désabusé et alcoolique, on en a vu à l'appel, on en a même un petit peu ras-le-bol que ce soit toujours la même chose. Et puis la dépression, je me demande si on n'avait pas fait une émission là-dessus, ou bien en tout cas, on en a déjà pas mal parlé. C'est un sujet qui est très récurrent ces derniers temps. Donc, on a aussi pas mal de personnages qui se débattent avec ces problèmes-là. Mais comme je l'ai dit, ça permet de leur donner un certain bagage, mais tout en restant des personnes relativement ordinaires. C'est pas un trouble psychiatrique qui exigerait absolument un internement, par exemple, ou une médication, ou ce genre de choses-là, quoi. Donc voilà, ça c'est une première chose. Évidemment, dans l'autre sens, mais aussi très très vu, revu et parfois survu, ce sont tous les sociopathes en tout genre. Puisque il y a une fascination pour ces personnages qui n'ont absolument aucune barrière et qui sont capables de faire les pires horreurs sans ressentir aucune
empathie.
Aucune empathie, oui, aucun mais aucun
remords,
aucune barrière morale, ouais. Rien du tout, quoi. Mmh. Donc il y a une vraie fascination là-dedans, et en plus, bah, c'est très utile parce que ça nous fournit
ça nous permet toutes les dérives possibles,
des super méchants, quoi. Ouais. Voilà. Donc c'est toujours pratique d'avoir un sociopathe sous la main, et heureusement, bah, les séries, surtout policières, nous en ont fourni.
Nous sortent les plus gros vilains, finalement, oui.
Ah oui, en tout cas, ceux qui peuvent être les plus impressionnants, parce que ça pourrait être vrai, en plus. Hein.
Oui, mais en même temps, parfois, on est loin, on est en dessous de la réalité, hein. Parfois.
Ah oui. Oui,
il y a certainement des cas qu'on ne connaît pas et qui existent vraiment et qui sont bien plus loin que toutes les extrapolations des séries télé.
Oui, enfin, je crois
alors, ça devient un peu dégueulasse et sale.
Il y a quand même...
Il y a de la marge, hein.
Il y a de la marge, hein.
De temps en temps, ils y vont vraiment. Ouais.
Hannibal, par exemple, il est gratiné, c'est le cas de le dire.
Ok. Oui.
Bon, donc, on va pouvoir trouver, en effet, le type du psychopathe le plus basique au type le plus original, qui fait des choses absolument bizarres. Bon, généralement, il y a assez vite une surenchère au type qui va faire les trucs les plus farfelus, hein. Il faut aussi le reconnaître. Mais donc, ça, c'est le deuxième type qu'on va retrouver très souvent. À part ça, je dirais que on va retrouver aussi régulièrement, malgré tout, même si c'est pas non plus, on n'en voit pas dans la majorité des séries, hein, mais le type de l'autisme bien particulier qui permet quand même d'avoir un minimum de contact, parce que c'est un autisme avec une intelligence plus reconnue, en tout cas. Hein, provoque aussi la fascination, et puis en même temps il y a parfois une volonté de les montrer comme des formes de génie qui peuvent éventuellement aider des personnes dans ce qu'elles sont censées faire, donc c'est aussi parfois un petit peu utile pour ça. Sinon dans cette catégorie là même si évidemment a priori, ça n'a rien à voir, mais j'ai l'impression qu'au niveau du ressort, c'est la même volonté qui est derrière. On a la représentation parfois du génie, mais cette fois-ci au niveau simplement QI exceptionnel, etc., qui est aussi représenté comme étant socialement inadapté, etc., et pour lequel il faudrait un certain soutien pour apprendre à repérer ce qu'il faut faire et pas faire au niveau des conventions sociales, parce que ça lui paraît totalement incompréhensible, quoi. Donc parfois il y a une tendance à mélanger un petit peu trop, je trouve, l'autisme et les QI très élevés. Mais c'est... peut-être que c'est justifié, hein, ceci dit, encore une fois, ce n'est qu'un avis extérieur ici.
Bien.
Évidemment, je pense à la série Scorpion, hein, qui m'avait beaucoup énervé sur ce sujet-là. Tu le sais bien. Mais à part ça, au niveau de la représentation de l'autisme, évidemment, il y avait Parenthood, hein, qui parlait de cette question-là. Il y a aussi la petite série anglaise The A-Word, l'année passée, qui était assez intéressante cette fois-ci, pas tellement pour le personnage en lui-même, parce que c'était encore un petit enfant, et donc il y avait assez peu possibilité de le découvrir lui, mais découvrir comment fonctionnait la famille tout autour et comment elle essayait de s'adapter, c'était intéressant à ce niveau-là également. Enfin, dernier trouble qui me paraît assez récurrent, ce sont soit les troubles de la personnalité, soit les troubles de, je sais pas comment les appeler, de la déconnexion avec la réalité d'une manière ou d'une autre. Et ça, pourquoi est-ce que c'est récurrent ? Ben parce que ça offre des prétextes assez facile entre guillemets, même si ça peut être super bien fait, hein, mais ça offre en tout cas un prétexte tout fait à un récit. Évidemment, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans cette catégorie-là? La série Mr. Robot, par exemple, du côté de la déconnexion avec la réalité, ou bien United States of Tara, du côté des personnalités multiples.
Oui.
Donc voilà, une série comme DFR cette saison-ci, la saison 3, a plutôt aussi
joué
sur cette corde-là. Mmh. Voilà, ceux que ça intéresse pourront retrouver ça aussi. J'ai l'impression que là, on a couvert les troubles principaux qui sont les plus souvent représentés. Une dernière petite note pour dire que il y a pas longtemps, un des derniers épisodes de Supernatural qui est sorti faisait énormément penser à la maladie d'Alzheimer, parce que Dean perd petit à petit la mémoire de qui il est, et c'est finalement une maladie qui est assez peu traitée, probablement parce que c'est très lourd, hein, et c'est un sujet très lourd, et c'était plutôt intéressant, et peut-être que ce serait intéressant d'en avoir plus, finalement. Donc voilà, c'est aussi une forme de déconnexion avec la réalité, mais là, évidemment, sur un mode beaucoup...
C'est
sûr qu'il y ait énormément de gens qui ont envie de regarder ça en face, quoi, et donc ça fait peut-être un peu plus peur qu'un trouble où c'est... il y a moins de risque que ça nous arrive un jour, quoi. Voilà.
Et qui fait moins peur aussi, parce que, outre le fait que ça nous arrive, c'est vraiment pas marrant. Donc, oui.
Voilà.
Tu as peut-être donné des idées à des scénaristes fous.
Oui.
un peu téméraires pour des nouvelles séries télévisées. On fait une petite pause ?
À nouveau, oui. On va s'écouter Fool de Cat Power, entendu dans la version anglaise, donc originale de Skins.
Apartment in New York, London and Paris. Where will we rest? We're all living on top of it. It's all that we have. The USA is ugly bread, and no one is willing to share it. Why can't we see a fortune to see? Living is legends have lived. Bane and dismantled with cooks all the time, knowing that nothing is left when we die. Come along, fool. The direct hit of the senses, you're disconnected. It's not that it's bad. It's not that it's dead. It's just on the tip of your tongue and it's so silent. Wanting to live and laugh all the time, sitting alone with your children with kids and people with parents. Any which way there's no past and no presence. When the day comes and all of them bombs, we are revealing chanting persons. Come along, fool. It's not that it's bad. It's not that it's dead. It's just that it's on the tip of your tongue. You're so silent. When it's a rat and the baby's in love, half of it's misunderstanding.
c'est fin de Série Folie qui vous parle de psychologie dans les séries télé. Que veux-tu nous dire pour conclure plus ou moins cette émission ?
Eh bien, simplement parler des représentations qu'on peut avoir dans les séries, à la fois des psys d'un côté et des patients, même si c'est vraiment entre grosses guillemets ici, puisque la plupart du temps, ils ne vont absolument pas chez le psy. La plupart des malades, entre guillemets, dont je vais parler. Donc, du côté du psy, eh bien, on a deux formes en particulier. On va avoir le psy sur le terrain. Évidemment, dans toutes les séries policières possibles et imaginables, dans lesquelles ils vont pouvoir être consultants, profilers, experts, etc. Parfois même, le consultant est lui-même le malade, voire le grand méchant de l'histoire dans le cas d'Hannibal. Je pensais aussi à la série Perception, dans laquelle on a un professeur de psychologie qui aide la police dans des enquêtes, tout en ayant lui-même des hallucinations, etc. Donc on a assez régulièrement ce genre d'idée où finalement le psy lui-même est peut-être un petit peu fou, et c'est ce qui lui permet d'être aussi doué dans son métier. Par contre, du côté des psys en cabinet, comme je pourrais les appeler, là, on a une représentation très classique et très professionnelle. Le cabinet feutré, évidemment, on pensera aux psys dans Les Sopranos, par exemple, mais une série qu'on ne pourrait pas ne pas citer aussi, c'est la série En Analyse, qui, là, nous présente vraiment des sessions complètes et même plusieurs sessions, puisque chaque nouvel épisode nous permet de nous plonger régulièrement dans une nouvelle session d'un même personnage. Une série qui est assez intéressante, notamment alors à quel point ce genre de consultation est réaliste, c'est à nouveau, je saurais te le dire, mais au minimum, pour le téléspectateur, c'est assez prenant à regarder, alors que c'est quand même que deux personnes qui sont en train de discuter l'une face à l'autre dans un cabinet, quoi, hein. Donc, et c'est assez bien fait, surtout pour la première saison, il faut l'avouer, hein. Donc voilà, si le métier de psy vous intéresse, la série En Analyse doit être faite pour vous, au moins pour vous en faire un avis. Et dans les autres séries, souvent, mais le psy, il est là pour permettre au héros ou bien à un des personnages principaux de la série de prendre conscience de quelque chose qui va lui permettre de prendre une nouvelle décision, donc un nouveau changement dans sa trajectoire. Donc c'est souvent à ça que ça sert. Je pense par exemple à la série Dawson, où on a Jen qui va voir le psy pour régler ses problèmes avec son père, par exemple. Ben oui, ça lui permet de prendre conscience de certaines choses. Même si, avouons-le, la pauvre n'a pas l'air d'avoir jamais réglé quoi que ce soit. Mais bon, ça, la question de l'efficacité, par contre, peut être un petit peu questionnée, vu que, par exemple, les Sopranos, ils passent quand même des années dans ce cabinet sans qu'on ait l'impression qu'il ait beaucoup évolué, quoi. Donc voilà, ça, c'est du côté des psys. Du côté des malades, maintenant, on va avoir évidemment tous les héros les plus divers qui sont un petit peu dérangés, mais c'est ça qui fait leur génie aussi, du genre Carrie Mathison dans Homeland, du genre Sherlock, même si il n'est pas si dérangé que ça, mais un petit peu quand même. Dans Elementary aussi, là, c'est plus l'addiction qui est représentée, mais pourquoi pas. The Affair, j'en ai déjà parlé. My Mad Fat Diary, Crazy Ex-Girlfriend, Mr. Robot, etc., etc. On pourrait en citer énormément, finalement, des héros qui sont un petit peu malades psychologiquement. Voilà. Alors, on avait aussi les méchants. Évidemment, les proches qui permettent de voir la dynamique qui peut s'installer autour d'un malade. Et puis, y a certaines séries qui représentent chacun des personnages comme étant un petit peu impatient, finalement. Chacun d'entre nous serait impatient. Et je pense aux séries de David Milch, dans lesquelles j'ai l'impression qu'il y a une prise en compte des défaillances un petit peu psychologiques de chacun de ces personnages. Et c'est aussi ça qui rend ces séries aussi attachantes. Voilà.
Voilà. Merci Aurore. On va se dire au revoir. L'émission ici sera podcastée évidemment dans les prochains jours via le site internet www.seriefolie.be, les réseaux sociaux. Nous ne serons pas présents la semaine prochaine, semaine de vacances. On s'aligne sur les congés scolaires ici en Belgique, la semaine de carnaval.
Voilà.
Et on va se quitter en musique si tu le veux bien.
On va s'écouter Sonnet de The Verve, entendu dans My Mad Fat Diary et Daria.
Voilà, à très bientôt.
À bientôt.
My friend and me, looking through her red box of memories. I'm sure, but love seems to stick in her veins, you know. Yes, there's love if you want it. Don't sound like no sonnet, my Lord. Yes, there's love if you want it. Don't sound like no sonnet. Can't you see that nature has its way of wanting me? Eyes open wide, looking at the heavens with a tear in my eye.